auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos médias partenaires du Niger. Au Niger, quel impact du changement climatique sur les femmes en zone de conflit? C'est l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les communautés. Ses effets varient selon les régions et impactent différemment les populations. Selon les experts, les populations déjà vulnérables et marginalisées seront les plus touchées, dont en grande partie les femmes vivant dans les zones de conflit. Quelle est la situation climatique au Niger? Quel lien entre changement climatique et le conflit existant? Comment les femmes dans les zones de conflit sont impactées par les effets du changement climatique? Quelles pourraient être les violences sur les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes sont les plus vulnérables dans cette situation? Comment améliorer la vie des femmes face à cette situation de changement climatique? Quelle réadaptation des femmes au changement climatique en zone de conflit? C'est sur ces points et bien d'autres que se portera notre émission en compagnie de nos invités, Madame Hadiza Hima Harouna, membre du vivier d'expertise féminin en matière de sécurité dans le Sahel et experte en gère et gouvernance sécuritaire, en compagnie de Madame Azara Alitan, présidente de l'association de femmes de lutte contre la guerre, qui sera au téléphone avec nous, et enfin de Madame Nana Djoubi Harouna, communicatrice du réseau parlementaire de lutte contre les violences basées sur le genre. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Rafika à Tahir à la modération. L'UNESCO, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 2016, a annoncé que les effets du changement climatique et la rareté des ressources intensifieraient les violences à l'égard des femmes et des filles. Selon eux, le changement climatique est un multiplicateur de menaces. On va commencer avec vous. Comment se présente la situation climatique au Niger?
Tout d'abord, je voudrais remercier le studio Kalangou d'avoir bien voulu nous inviter dans cet échange qui est quasiment d'actualité pour dire qu'il est bien clair, que ce soit pour les échos, pour les géographes, etc. Il n'y a rien à faire, même quand vous n'êtes pas du domaine, c'est bien visible. Le changement climatique est bien présent au Niger. Aujourd'hui, ce qui est visible, c'est effectivement le côté pluviométrique. Et si on va aller directement dans votre sujet pour le faire dans le monde où je veux dire dans un milieu de conflit, il est bien clair déjà, c'est une terrible complication. À partir du moment où c'est des tiroirs où la paix n'y est plus, c'est des tiroirs où, et tiroirs plutôt où il y a la complication dans les vies de tous les jours qui ont été bouleversées. Puis avec ce changement, ça veut dire que le repère n'y est plus. C'est vraiment, les gens sont éprouvés. Et pour dire, moi, par exemple, personnellement, pour aller dans le vif du sujet, on a été, par exemple, dans le cadre d'une mission parlementaire ici à côté à Tillabéri. Et déjà, on sentait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas dans un sens où, en dehors de ce que les gens vivaient, comme je dis, effectivement, à cause du changement, plus cette insécurité, je pense que beaucoup est à faire et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés qu'il faudrait peut-être énumérer au fur et à mesure dans notre émission.
D'accord, Madame Nana Djoubi. Madame Alitan, vous êtes là?
Oui, je suis là.
D'accord. Comment se présente la situation des femmes face aux violences et au changement climatique?
Elle se présente très mal. Parce que s'il y a quelqu'un qui subit les conséquences des changements climatiques comme des conflits, c'est toujours les femmes. Ce sont elles les mères, ce sont elles les époux, ce sont elles les sœurs. Donc elles subissent directement les conséquences et directement elles les vivent dans leur chair. Mais surtout pour la région d'Agadez, parce que nous disons que la région d'Agadez a connu quand même des conflits et ces conflits sont dus, à notre avis, au changement même climatique. Pourquoi j'ai dit ça là, je m'explique. Parce que quand il y avait eu les sécheresses, quand il y a des bidonvilles, des champs qui ont perdu leurs bétails, qui ont perdu leurs animaux, qui sont venus aux alentours des grandes villes et qui sont restés. Mais la manière, la réponse n'était pas à l'attente de ces populations. Et les jeunes sont partis ailleurs, là où ils ont appris à manipuler les armes, là où ils sont revenus, ils ont appris qu'ils ont des droits sur l'État. Et c'est, nous disons même que c'est de ça que la rébellion même est née. Donc vraiment, c'est négatif, quoi.
D'accord.
Il n'y a rien du tout.
Oui. Madame Hadiza Hima, la même question pour vous. Comment se présente la situation des femmes face aux violences et au changement climatique?
Ce que je peux dire par rapport à cette question, la crise climatique n'est pas neutre. Il faut le comprendre. Les femmes subissent vraiment une situation. D'ailleurs, elles sont les plus nombreuses dans la communauté. Ensuite, elles vivent dans des zones à risque. les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas le pouvoir de, ou bien elles ne sont pas autonomes d'avoir des endroits plus stables ou bien là où elles sont à l'aise. Elles n'ont pas ce pouvoir-là parce qu'elles ne sont pas autonomes. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est des facteurs que les femmes vivent négativement le changement climatique. Et aujourd'hui, si on constate, surtout dans les zones en conflit, les hommes sont plus fréquemment appelés à se déplacer, en exil. Vous voyez, mais les femmes, non, elles sont toujours couchées à la famille. Donc, c'est beaucoup de poids sur elles.
Oui, nous allons justement venir à ce point. Mais comment est-ce que les effets de ce changement-là affectent justement les femmes et les filles dans ces zones?
Et ces effets-là les comment affectent ça les négativement. Affecte? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur ces femmes-là. Elles sont négativement affectées.
En quoi faisant, par exemple?
Par exemple, sur leur propre santé même. Quand on prend par rapport au changement climatique, la chaleur intense, ça agit sur le corps directement de la femme par rapport à sa santé infantile, néonatale. Vous voyez tout ça là. Ensuite, par rapport aux facteurs socio-économiques, facteurs socio-politiques, leur santé même en tant que telle. Si tu prends la femme, elle travaille dans les champs. Et aujourd'hui, ce secteur est affecté par le changement climatique. La femme, elle a le devoir, comme la société l'a attribué, d'aller chercher les combustibles. Et là, il faut parcourir des distances et des distances pour y accéder. Il y a l'eau aussi.
Madame Djoubi, ces effets-là du changement climatique, comment est-ce qu'ils affectent les femmes et les filles dans les zones en conflit?
D'accord. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on dit changement climatique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bouleversement dans le temps, des réactions peut-être de la nature qu'on pourrait observer sur un milieu ou dans un milieu bien déterminé. Si on prend par exemple dans nos zones de conflit, si on doit se baser sur spécifiquement le cas du Niger, il faut avoir là où il y a des brèches, quand je dis des brèches, là où il y a des mouvements, peut-être que ça soit Dosso, que ça soit Tillabéri, que ça soit Agadez, que ça soit Maradi, etc., etc. Il faut savoir que la principale chose qu'on observe, c'est qu'en dehors du fait que ces gens-là dans ce tiroir-là, essayent tant bien que mal de s'adapter par rapport à ce qu'est le changement climatique chez eux. Parce qu'effectivement, dans certaines zones, ça peut être des inondations, comme d'autres, ça peut être des sécheresses. Mmh. Alors, toujours est-il dit que c'est un changement que la population ou que le truc observe pour essayer de s'y adapter. Si on vient au cas des filles et des femmes, la plupart des zones d'insécurité au Niger, c'est des zones rurales. Alors, ça veut dire que nous savons très bien que dans ces zones-là, s'il faut s'occuper du côté ou s'atteler sur le côté la vie économique de la femme ou professionnelle de la femme, elle est forcément agricultrice ou éleveuse dans ces zones-là, le plus souvent. Il y en a peu qui exercent le commerce avec faible revenu, etc., etc. Mais sachez que pour celles qui font l'agriculture, il faut s'adapter. Par exemple, par rapport aux nouvelles semences maintenant qu'il faut cultiver parce que voilà, la terre a changé, le temps a changé, les pluies ont changé, etc. Par rapport à l'élevage, les animaux souffrent de plus. Il faut aussi aller se faire former ou s'informer ou avoir de l'aide par rapport à comment dorénavant pratiquer son élevage. Pour le petit commerce, la même chose. Les gens ont un autre besoin par rapport au changement qui a été observé dans leur vie, etc. Il faut s'adapter. Moi, je dirais, compte tenu du fait que le changement climatique arrive avec surtout l'impact de l'être humain sur la nature, alors forcément, c'est énorme ce qui se passe. Par exemple, notre pays ne se rend pas compte de l'importance de ce sujet-là. Si on doit le comparer par rapport à d'autres nations, ils en ont tellement conscience que ça fait partie du quotidien, ça fait partie des problèmes de tout et qu'il faille regarder tous les jours parce que c'est vraiment des problèmes qui impactent effectivement la vie de l'être humain.
D'accord. Allô, Madame Aliten. Ce changement climatique rend les femmes vulnérables. Pourquoi elles et comment expliquer cette situation?
La vulnérabilité, là, c'est pas seulement les femmes, mais elles sont plus vulnérables que les hommes. Parce que d'abord, les pluies qui viennent plus tôt que prévu, elles détruisent le potentiel, que ce soit au niveau des éleveurs comme les jardins. Elle trouve ce que possède la femme. Et ici, par exemple, dans la région d'Agadez, les femmes ont leur terrain, elles ont des choses qui sont détruites. Donc, elles deviennent vulnérables, plus vulnérables que les hommes. Elles le sont déjà. Il y a plusieurs raisons qui font que les femmes sont vulnérables. Mais comme nous sommes sur des sujets, maintenant, on ne parle que de ça. Mmh. Je vais parler que de ça. Mais sinon, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'analphabétisme, et puis il y a la dépendance économique. Il y a plusieurs raisons. Nous, nous pensons que tout est fait. Le changement climatique a contribué beaucoup. D'accord. À l'insécurité. Ou bien les conséquences du changement climatique, il n'y a pas eu de réponse adéquate pour occuper les jeunes, pour occuper les femmes, pour faire beaucoup de choses. Tous ceux qui ont perdu leur bétail, qui sont venus, comme je le disais tantôt, et ces gens-là, ils doivent quand même être occupés, on doit s'occuper d'eux, on doit leur former, parce que c'est un changement du coup de mentalité, c'est un changement même d'activité. De l'hiver, des nomades, on devient sédentaire. Donc il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, et ces mesures d'accompagnement ont fait défaut. Nous, d'après nos analyses, c'est même ce qui a fait qu'il a eu naissance de la première rébellion. Si les conséquences, si ces jeunes-là avaient été occupés, si ces femmes-là avaient eu des réponses économiques ou des choses, ils n'allaient même pas dans les pays étrangers pour apprendre à manipuler les armes, pour savoir même qu'ils ont des droits. Parce que je vais aller plus loin. Vous savez, quand il y avait le tourisme là, quand il y avait les Paris, les rallyes Paris-Dakar et autres là, mm-hmm. Les gens d'Agadez s'en foutaient de ce que faisait l'État. Ils ne savaient même pas qu'ils ignoraient même qu'ils avaient ils ne voulaient même pas savoir. Ils s'en foutaient de ce que faisaient les sociétés minières. Maintenant, c'est avec la pauvreté, avec la vulnérabilité, qu'ils se sont rendus compte que les sociétés qui travaillent ici, qui sont dans cette région, ils ont quand même des droits à ce qu'ils soient employés ou à ce qu'ils fassent quelque chose de même sérieux que dans les cas de la santé ou dans les cas de puits et autres là, ou de l'économie. Tout ça, là, c'est venu avec la vulnérabilité et cette vulnérabilité-là. La première base, nous disons que c'est même le changement climatique qui a provoqué tout ça-là.
D'accord, Madame Alitane. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de notre débat qui portera sur les conséquences des violences et du changement climatique sur les femmes dans les zones d'insécurité. Je vous propose tout d'abord d'écouter quelques témoignages de femmes.
Ce que tu faisais pour subvenir à tes besoins ne marche plus aujourd'hui. On remercie l'État et les ONG. Ils nous aident malgré que c'est insuffisant. Ce qu'ils nous donnent pour une grande famille, ça n'attendra même pas pour 15 jours. Les mesures de la nourriture que tu prends dans ton grenier, aujourd'hui c'est quelqu'un qui te les donne. Les hommes sont à la recherche. C'est la femme qui s'occupe des enfants si elle arrive à avoir du travail comme bonne. C'est l'homme qui est la force d'une femme. D'autres ne sont pas en vie, d'autres ont quitté leur famille. La vie est chère. Même pour acheter à manger ou payer des habits aux enfants, on n'en a pas. Il y a aussi les soins si nous tombons malades. Même les agents sanitaires nous ont quittés depuis l'année passée. Vraiment, on souffre. On ne fait rien comme activité. Mais si on nous apprend les petits métiers, ça peut nous aider. On n'a pas d'hommes ici. On a vraiment besoin d'aide, que ce soit financièrement ou en vivre. Aujourd'hui, si tu sais faire quelque chose, tu peux subvenir à tes besoins.
Vraiment, à Difa, la situation sécuritaire et économique n'avance pas. Par exemple, pour nous qui faisons le commerce du poisson et autres. Le poisson, avant, on partait l'acheter dans les villages qui ont des marigots. On le frit, ensuite nous retirons l'argent de l'huile et on gagne même des bénéfices. Maintenant, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. C'est les villageois qui nous amènent le poisson et nous le vendent cher. Parfois, on achète le poisson, on le frit, mais nous ne gagnons aucun bénéfice. Si on retire l'argent de l'huile, c'est juste pour ne pas rester sans rien faire que nous le faisons. Parfois, nous avons des bénéfices, d'autres fois non. Le jour où on gagne des bénéfices, nous en profitons. À part cela, du côté de l'agriculture aussi, avant, il y avait des villages dans lesquels nous partions faire de l'agriculture. Mais maintenant, ce n'est plus possible d'y aller. Vraiment, la situation économique n'est plus comme auparavant. Il y a une différence.
Nous n'avons pas la conscience tranquille là-bas. Voilà pourquoi on a quitté nos cieux. J'ai 5 enfants et nous vivons à merveille ici. La personne qui nous a accueillis nous a fait un hangar. Si ce n'est pas à cause de lui, nous serons sans abri. Dieu merci. Qu'Allah le récompense ainsi qu'aux habitants de Balayara.
Madame Alitan,
oui?
Quelle lecture faites-vous des témoignages que nous venons d'écouter?
Les témoignages, je n'ai pas beaucoup entendu. Mais j'ai entendu là où elle disait qu'elle produit, mais elle ne vend pas beaucoup. Pour les oui. poissons. Par rapport à cela, je dirais que ce sont les femmes qui vont... C'est même la région qui en pâtit. Parce qu'elles produisent, elles n'arrivent pas. Et c'est général. Hein. Même ici à Agadez, nous, on a d'autres problèmes. Les problèmes, les plus grands problèmes, c'est le banditisme. Ça, c'est vraiment... J'ai pitié de ces femmes-là parce que nous avons aussi vécu la même situation. À un moment donné, les gens ne voulaient même pas sortir, les gens ne voulaient pas. Même maintenant, les femmes qui viennent au marché vendre leurs animaux au retour, il y a des gaillards qui les attaquent et qui prennent ce qu'elles ont. C'est vraiment une situation à déplorer, quoi.
D'accord. Madame Adiza, quelle lecture faites-vous de ces témoignages?
Ce que je peux dire par rapport à ces témoignages, c'est que la femme, elle est encore plus vulnérable. Sa situation de vulnérabilité ne fait qu'augmenter dans les zones en conflit et avec le changement climatique. Parce que là, les revenus ne sont plus comme avant. Elles étaient d'avant, elles étaient vulnérables. Et là, voilà une autre situation. Donc, ce que je peux dire, que le changement climatique est un facteur aggravant aussi dans cette situation. Si on remarque, ce qui signifie que le changement climatique intensifie les tensions, que ce soit sociale, politique et économique des environnements fragiles, et surtout les zones touchées par les conflits, d'après les témoignages. Et si on remarque aussi, le changement climatique rend la femme plus vulnérable à toutes les formes de violence basées sur le genre. Si on prend à ce niveau, la femme est appelée à soutenir la famille, ce qui n'est pas son rôle d'avant. Le D'accord. mari n'est plus.
D'accord. Et vous, Madame Nana?
Par rapport au témoignage qu'on a entendu, oui franchement, ça, c'est parlant. C'est parlant dans un sens où on remarque tout de suite deux gros poids. Le premier, par rapport à l'insécurité. Qu'il n'y ait pas de changement climatique, qu'il y ait des facilités dans la société, qui est. Rien qu'avec l'insécurité, tout est bouleversé et tout est devenu difficile. Et la deuxième chose, le changement climatique. Moi, le rapport que je fais est très simple. C'est-à-dire, même si c'était possible, par exemple, si je prends le cas de la femme du DIFA, même si l'approvisionnement en poissons était possible comme avant, même si elle pouvait s'en procurer, avec l'insécurité, ce n'est plus possible. Et vous voyez pourquoi je dis le double poids. Maintenant, non seulement il n'y en a pas, il fallait faire beaucoup plus d'efforts pour en avoir. Et maintenant, avec la sécurité, ce n'est pratiquement pas possible. Elle est obligée de rester là où elle est et de se faire ravitailler par des villageois qui, forcément, à cause du trajet, à cause, va rendre la denrée plus chère encore. Et la deuxième chose, c'est que ce message, que selon moi, ça fait appel à la femme entrepreneuse qui est en moi. Pour dire que non seulement le changement climatique ne nous donne plus le choix par rapport à nos à nos professions, c'est-à-dire il va falloir faire avec les moyens du bord. Pire encore, il faut le faire pendant qu'on est en insécurité ou on doit faire avec ce que nous avons comme occasion. Donc c'est vraiment pas tenable comme situation. Je le réitère une fois de plus, très touchée que vous ayez à débattre de ce sujet-là. Et c'est vraiment un point qu'il faille vraiment toucher du doigt.
Selon Relief Web, se basant sur les données d'OCHA, les experts prévoient que d'ici 2100, la température augmentera de 3 degrés Celsius à 6 degrés, aggravant les problèmes de sécurité alimentaire, de raréfaction de l'eau, mais aussi les conflits et les crises humanitaires. Les crises climatiques et environnementales actuelles affectent tous les aspects de nos vies. Les personnes, surtout les femmes vivant dans les zones de conflit, font face à d'importants changements environnementaux. Ça, c'est une question pour vous toutes. Madame Alitan, on commence par vous. Quel impact le changement climatique a aujourd'hui sur les femmes au Niger, notamment dans les zones en conflit?
L'impact il est négatif parce que les femmes aujourd'hui dans les zones en conflit, elles ont déjà des problèmes de conflit qu'elles subissent dans leur chair. Et il y a aussi le changement climatique qui est là avec la chaleur, avec tout ce que ça comporte comme problème aux femmes. Il y a la vulnérabilité qui est là, comme on en a déjà parlé. Il y a les autres conséquences qui sont nombreuses. Donc, vraiment, c'est des problèmes. C'est des problèmes.
Okay. Madame Nana, quel est l'impact que ce changement climatique a aujourd'hui sur les femmes au Niger?
l'impact que le changement climatique a sur les femmes aujourd'hui au Niger, il est, c'est vrai, observable en milieu urbain. Du fait que, par exemple, il fait plus chaud, ça peut impacter la vie de la femme, le corps de la femme, etc., etc. Mais il est beaucoup plus, comme je n'arrête pas de le dire, remarquable en milieu rural. L'impact que ça a donné, c'est que ça a bouleversé leur quotidien et tout est à refaire ou à modifier. Je m'explique. Par exemple, la manière de faire ou de cultiver. Vous savez, pour un être qui a l'habitude, c'est-à-dire qui a grandi dedans, qui est né dedans, qui a grandi dedans, c'est très facile. Ça devient un mécanisme de sa vie de tous les jours. Il sait quand il se réveille ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire, qu'est-ce qu'il a besoin pour le faire, etc., etc. Mais maintenant, avec le changement climatique, c'est-à-dire les mêmes choses que vous utilisez pour faire une telle chose avant ne sont plus indispensables ou ne marchent plus parce que il y a un changement. Alors pour ces zones ou pour ces femmes-là, généralement analphabètes qui n'ont pas forcément conscience du changement dont on parle aujourd'hui, c'est très compliqué. Et j'ai entendu d'ailleurs dans le reportage de tout à l'heure où heureusement qu'il y a des ONG qui y vont pour leur expliquer ce que c'est, pourquoi ça arrive et comment s'y prendre. Sinon, il n'y a rien à faire. Elles-mêmes, elles ont compris qu'il y a un changement, elles ont compris que ça ne va pas, mais qu'elle ne faisait pas cas ou elle le rapportait pas au changement climatique. Donc, ce qui fait que l'impact, il est là, il est réel, il est clair. Et surtout, aujourd'hui, plus que jamais, elles ont besoin d'être sensibilisées, d'être formées et d'être accompagnées pour qu'elles puissent mieux le vivre.
D'accord. Madame Adiza, quelle est votre réponse sur la question?
L'impact, j'ai dit, il y a un impact négatif sur la santé des femmes et sur leur sécurité. Quand on prend côté santé, comme je l'avais dit, par rapport au réchauffement climatique, ça a un impact direct sur la santé de la femme. Maintenant, côté sécurité, la femme travaille le champ. Elle n'aura plus accès à ce travail-là. Et même si elle ose, ce qui est sûr, elle sera victime de violences.
L'accès, genre de violence.
Si on prend les violences, exemple viol, elle peut être victime d'un viol en cours de route. Elle peut être victime d'agression sexuelle. Tout ça là, elle est exposée. Quand on prend par rapport aux filles, les filles, leur accès à l'éducation sera limité parce qu'elle est obligée de venir soutenir sa mère dans cette tâche lourde qu'il y ait. Vous voyez un peu?
On essaie de voir.
Voilà. Non, c'est compliqué au fait. Surtout quand tu es avec les femmes dans les zones rurales. Vraiment, ça fait mal au cœur. On a échangé avec des femmes. Quand tu prends un exemple de les zones, la région du Zander, qu'on pense que c'est une région vraiment qui est calme,
stable par rapport
aux autres régions. Mais malheureusement, il y a la délinquance qui survit là-bas. Quand on te dit la situation des femmes et des filles dans ces zones-là, c'est alarmant. Et tout ça, là, c'est dû aussi aux facteurs de changement climatique. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus occupées. Leur revenu n'est plus. Tout ça, là, vraiment, c'est des conséquences négatives du changement climatique. C'est les femmes.
Madame Alitan.
Allô?
Oui, Madame Alitan. Les effets du changement climatique favoriseraient les violences faites aux femmes. On vient de le dire. Comment expliquez-vous cela?
Moi, mon opinion, c'est que les changements climatiques favorisent les violences faites aux femmes. D'abord, elles sont déjà vulnérables. Et qu'avec ces changements, il y a le changement de comportement qui est venu avec ces changements. Beaucoup de gens ont adopté d'autres comportements qu'ils n'ont jamais connus au niveau même au niveau de l'éducation et au niveau de l'autre. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de manières de faire ont changé. Donc, maintenant, ça vient avec la violence et tout ça. Là.
Nana, les inégalités hommes et femmes et les violences sexistes sont-elles exacerbées par la violence climatique et ses effets dans les zones?
Parler du changement climatique et le rapporter avec, par exemple, les inégalités sexistes.
Oui, en fait, ce qu'on essaie de dire par inégalité dans le débat, on a vu que c'est surtout les femmes que ce changement climatique touche dans les zones en conflit.
D'accord.
Elles sont victimes de viols. C'est elles qui partent puiser de l'eau à des kilomètres en cours de route. Elles peuvent être agressées.
D'accord.
Donc, c'est surtout elles qui sont le plus touchées.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que ce sont ces changements vraiment climatiques qui profile cela?
Dans tous les cas, le fait que la femme soit exposée quand il y a insécurité, c'est bien normal. C'est connu de tous les jours. Ça a été tout le temps le cas. Dès qu'il y a insécurité, les premières victimes, c'est les femmes et les enfants. Ça, on est d'accord, c'est universel. Maintenant, si on prend par exemple le cas chez nous, déjà, j'ai entendu à cause de certains facteurs, là je l'avoue, je suis obligée de l'admettre. Oui, la femme nigérienne est déjà vulnérable par rapport à certains facteurs. Maintenant, le fait que...
Donc ça n'a rien à voir avec les effets du changement climatique, la vulnérabilité existait...
Existait déjà. Et je me dis que c'est normal. C'est comme si on était... Il y avait une échelle et une peinture sur l'échelle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a la peinture que maintenant, la première barre va repartir à la troisième, etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est déjà la composition de la société nigérienne qui est comme ça. Maintenant, si complication, il y aura forcément, là, on va l'observer comme tel, et c'est normal que ça fasse effet sur ce qu'elle a trouvé comme organisation de la société, etc., etc. Mais toujours est-il dit, ce que moi j'aimerais apporter ici, c'est que, vous savez, qu'on dise vulnérabilité de la femme nigérienne, je commence à ne plus être d'accord. Et surtout quand ça vient des bouches des femmes. Je m'explique. On est plus nombreuses au Niger. On est 52 sur 48.
Vous allez parler peut-être des perspectives. Nous allons venir.
Ah, d'accord, oui, d'accord. Oui, dans oui, ces oui, cas, oui. Je dis...
Madame Hadiza, la même question. Les femmes sont les plus exposées. Est-ce que c'est vraiment dû au changement climatique?
Oui, le changement climatique...
C'est le changement climatique qui favorise...
Oui, ça amplifie la situation. Le changement climatique est un multiplicateur de menaces, au fait. Donc, dit à ces changements climatiques, ces femmes peuvent encourir plus. Et on peut le prouver ici au Niger même.
Madame Alitan,
oui.
On dit les inégalités entre hommes et femmes et les violences sexistes sont-elles profilées par le changement climatique et ses effets dans ces zones? Est-ce que les violences, la vulnérabilité, le fait que les femmes soient plus vulnérables sont vraiment dues au changement climatique?
C'était la même réponse que je vais donner. C'était pas... Bon, il y avait quand même ce problème avant, même c'est dû à l'analphabétisme, c'est dû au manque d'opportunités économiques, c'est dû au manque, au fait que les femmes ont toujours été vulnérables, quoi. Elles ont toujours été considérées, en certaines mesures, comme toujours subordonnées.
Il y a Madame Nana au studio qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec le fait qu'on dise que les femmes sont vulnérables, surtout venant des femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela?
Bon, moi, je sais que c'est pas bon à dire, c'est pas bon à entendre, mais c'est une réalité aussi qui est là, et je m'excuse. Maintenant, c'est vraiment une réalité qui est là. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes ici, dans cette région.
D'accord, vous êtes d'accord, et elle ici, elle n'est pas d'accord.
Mais on ne peut pas dire que c'est dû au changement climatique. C'est bien avant le changement climatique.
D'accord.
Merci.
D'accord. Merci. Et vous, madame, apparemment, vous avez quelque chose à dire sur la question.
J'ai dit vraiment, les femmes sont vulnérables. Peut-être honorable le milieu dans lequel elle est. Elle a fait ses analyses par rapport à ces milieux. Mais aujourd'hui, allez-y dans les zones reculées. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a des zones où la femme n'a même pas accès à la terre. Il faut le comprendre, c'est comme ça. Même si vous n'acceptez pas. Mais moi, je sais. Je vis fréquemment avec ces femmes. Je sais beaucoup de choses. Je me mets dans leur corps. Et je sais ce qu'on est en train d'endurer dans les zones les plus reculées. Et aujourd'hui, la femme nigérienne, il y a des femmes nigériennes qui prennent en charge la famille. Et là, c'est un grand pourcentage. Je vous jure. L'homme est parti, il a laissé la femme en charge de 10 enfants. Sinon, deux fois plus même, les enfants de la sœur avec elle. Tout ça, là, c'est la femme qui prend en charge, alors que cette femme n'a pas de revenu. Aujourd'hui, l'homme prend le champ, le vend et part avec l'argent. La femme, c'est de bruit commun.
Apparemment, les opinions diverses sur cette question. On va continuer maintenant avec le portrait de Mariam Guissa, une femme engagée dans la lutte pour le droit des femmes.
Native d'Agadez, Mariam Guissa n'a jamais été scolarisée. Mais dans la région d'Agadez, c'est l'une des figures emblématiques des femmes engagées. Dès les années 90, Mariam s'est affichée au premier rang des organisations féminines au Niger pour l'amélioration des conditions de vie de la femme nigérienne.
AFN est la première association et en ce moment, j'ai été militante. Il a fallu qu'on aille à Dirkou pour que je sois la présidente des femmes des militaires, à Bilma de la région d'Agadez aussi. Et après, je suis revenue résider à Agadez. Quand on a fait la conférence nationale, RDFN a été créée. Nous étions à la tête et dès là, je suis devenue la présidente.
Pour Mariam Guissa, malgré ses années de lutte, la femme n'est toujours pas assez impliquée dans les instances de prise de décision. Elle estime que pour avancer, il est nécessaire d'impliquer la femme.
Les difficultés auxquelles on fait face maintenant et qui, nous voulons qu'à chaque prise de la décision, la femme soit impliquée. Tout ce qui est de la main de la femme ne s'égate pas. On a vu des femmes qui ont instauré la paix. Nous voulons qu'on aide les femmes travailleuses. On veut que dès qu'il y a deux, trois hommes, au devant, la quatrième soit une femme.
Madame Azara Aliton, une des femmes leaders d'Agadez, apprécie l'engagement de Mariam Guissa. Elle la considère comme un exemple de femme battante.
Hadja Mariama est une femme battante qui a toujours mis l'intérêt des femmes en avant. Elle a toujours mené une lutte farouche pour l'émancipation de la femme. Elle a toujours mené un combat pour la prévention et la consolidation de la paix. Elle a aussi lutté pour l'autonomisation économique des femmes. En un mot, elle fait partie des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays.
Aujourd'hui, âgée de 70 ans, Mariam Guissa, malgré son alphabétisme, a su marquer l'histoire du Niger, notamment pour la consolidation de la paix et l'émancipation de la femme.
Madame Aliton,
oui?
On vous a même entendu témoigner sur le travail de Mariam Guissa.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire qu'on n'a pas entendu dans le portrait?
Bon, ce que je peux dire par rapport à Mariam Guissa, c'est une femme battante. Ça, c'est quand même une réalité. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, je ne l'ai pas dit dans mon témoignage, c'est que quand il y avait eu une femme qui s'est présentée candidate à la présidence, Mariam Guissa, pied à pied, elle courait derrière toutes les femmes. Elle a fait le circuit de toutes les femmes de la région d'Agadez, de la commune d'abord, pour nous sensibiliser, pour nous dire qu'il y a une femme qui est candidate et on doit la soutenir, c'est un devoir pour nous. N'attendez pas quelque chose, il faut que les femmes sortent, il faut que les femmes soutiennent cette candidate. C'est notre candidate, que nous la connaissons, c'est lui qui la connaît, c'est lui qui ne la connaît pas, on doit la soutenir. Donc ça veut dire que c'est un combat pour la femme. Mais elle est partie jusqu'à nous dire de mettre le couleur des partis politiques là de côté, agissons avec les femmes et votons la femme.
D'accord.
Ça, ce sont ces
termes. D'accord. Madame Nana, connaissez-vous Mariam Guissa?
Non.
Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce qu'on a entendu?
Ce qu'on a entendu, il n'y a rien à faire. Ça doit être une fierté, hein. Parce que selon les témoignages que j'ai entendus, ça doit être vraiment une fierté parmi tant d'autres d'ailleurs qu'on a au Niger. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est peut-être la féliciter et encore l'encourager et lui dire que des femmes comme elle, on en a vraiment besoin dans notre société.
D'accord.
On en a vraiment besoin.
Madame Adiza.
J'ai entendu un peu parler d'elle parce que j'ai un peu fait
parcours. Vous la connaissez?
De vue, je ne la connais pas. Mais dans ses actions, parce que j'ai un peu fait des recherches par rapport à la rébellion d'Agadez.
D'accord.
Et là, j'ai compris que ce sont les femmes qui ont mis fin à ce conflit dans la région d'Agadez, ce qui n'a jamais été fait ressortir. Ils n'ont jamais dit, voilà, le rôle que les femmes de la région d'Agadez ont joué par rapport à la résolution du problème de conflit. Alors que les femmes étaient à la base. C'est les femmes qui ont dit, ouf, il faut que ça s'arrête. Et cette brave femme était parmi ces femmes.
Mm-hmm.
Et c'est une femme que j'ai beaucoup admirée quand on m'a parlé d'elle. Et c'est une femme qui fait l'honneur aussi de la région d'Agadez. Au début, sans rien vous cacher, j'ai pas foi aux femmes leaders nigériennes. J'ai mes raisons.
Mm-hmm.
Mais là, je vois un bon exemple.
D'accord.
Parce que la plupart des femmes leaders nigériennes, elles sont casées à Niamey. Les actions, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les débats. Mais quand on dit de sortir sur le terrain, tu sens rien. Et beaucoup d'intérêts des femmes sont boycottés. Mais malheureusement, ces femmes n'ont pas réagi.
D'accord.
Et je la félicite.
D'accord, Madame Hadiza. Les femmes peuvent contribuer contre le changement climatique et les conflits et aussi promouvoir les méthodes d'adaptation et d'atténuation de leurs effets. Vous nous écoutez, Madame Aliton? Comment donc aider ces femmes qui vivent dans ces zones?
Bon, nous, à un moment donné, par rapport au changement climatique, nous avons dit que les femmes peuvent bien apporter leur contribution. Elles peuvent bien faire quelque chose. Pourquoi? Rien que par la simple méthode que chacune des femmes... comment on l'appelle, plante des arbres dans sa maison autour d'elle, qui est dans un quartier, que toutes les femmes fassent la même chose. Et ça va de maison en maison, de quartier en quartier, de village en village, jusqu'à la région et jusqu'au pays. Ça, c'est une proposition que nous avons eu à faire. Et nous avons dit que comme ça, non seulement ça occupe les femmes, elles vont s'occuper de l'éducation de leurs enfants, parce que le plus souvent, elles sont seules. Les maris sont partis à la recherche du bien-être. C'est de là-bas peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose qui est mauvais même, au lieu de chercher. Donc ce sont les femmes qui s'occupent des maisons, ce sont celles qui s'occupent du foyer, de l'éducation, tout ça, la santé et tout ça. Là. Maintenant, de l'autre côté, il y a les arbres qui poussent. Et ça fait atténuer le changement climatique dans une autre mesure. Donc nous avons eu à faire des propositions.
D'accord, Madame Alitane. Madame Hadiza, qui sont les acteurs qui mènent des activités dans les zones de conflit au Niger, justement, avec pour cible les femmes et les filles?
Les acteurs, je
pense. Oui, oui, les... qui mènent des activités dans les zones en conflit.
Les
oui, ONG. Les ONG, s'il y a des OSC, les ONG, si vous-même vous intervenez, donc dites-nous quels sont ces acteurs et ce qu'ils font pour ces femmes et ces filles.
Oui, il y a des acteurs qui interviennent dans les zones de conflit. Beaucoup d'ONG, je ne peux pas les citer, il y a les ONG nationaux et internationales aussi qui interviennent dans les zones de conflit. Par exemple, moi, en tant que vivier d'expertise féminin, nous, on fait des actions de résilience. C'est quoi notre stratégie? Et on le fait sans financement de partenaires, hein, en tant que Nigérienne, parce que le Vivier, c'est un groupement de 30 femmes du Niger, Mali et Burkina qui interviennent dans le truc de conflit. Qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise les femmes, parce qu'aujourd'hui, la femme, en matière de gestion de conflit, elle a une stratégie innée en elle. Quand elle décide, ou bien quand tu l'accompagnes à le développer, elle peut le faire. Mais malheureusement, c'est l'accompagnement là qui manque au niveau des femmes. Quand tu prends l'aspect résilience par rapport au changement climatique, c'est quelque chose qui est inné à la femme. C'est là où les traditions et les coutumes, les cultures vont intervenir. Par rapport à ça, nos grands arrière-parents, ce qui est sûr, il y a quelque chose qu'ils font par rapport à ces genres de trucs. Et là, la femme, c'est quelque chose qui est en elle. Elle facilement, elle peut développer des stratégies. Comment contrer telle chose? Mais là, c'est les formations, les renforcements de capacités, l'accompagnement de la femme qui manque. Et c'est ce que les ONG doivent faire. Mais malheureusement, ils viennent avec leur stratégie imposée à ces femmes. Faites ceci, faites cela. Mais malheureusement, ça ne répond pas directement à leurs besoins. Poussez ces femmes, accompagnez ces femmes à développer vos leaderships par rapport à ça. Proposez-nous qu'est-ce que telle situation... Exposer la situation à la femme. Voilà ce que tu es en train de vivre, tu ne sais pas. Mais quelle solution venant de toi-même par rapport à cette situation? Et voilà ce que nous devons faire. Mais malheureusement...
Madame Nana, comment améliorer leur capacité d'adaptation partout au Niger et en particulier dans les zones en conflit? On parle bien sûr des femmes et des filles.
D'accord.
Vous avez entamé ça.
Oui. En premier lieu, en fait, je tenais à rappeler un point important où cette nouvelle législature en cours, avec l'organisation des 51 femmes parlementaires de l'Assemblée nationale, on a initié déjà une innovation dans le sens, dans le cadre du 3 août, qu'on a déjà fait la première édition à Zander, où effectivement, dans le cadre de lutte contre ce changement climatique, on avait décidé et dorénavant d'accompagner les initiatives de la Première Dame, notamment partout où il y aura cette célébration, les femmes parlementaires feront bloc autour de la Première Dame pour l'accompagner à sensibiliser et à faire intervenir plus de femmes dans les festivités du 3 août pour les aider effectivement à amener leurs contributions, que ce soit dans la protection des arbres, dans la plantation même et l'entretien des arbres, etc., etc. On a eu à le faire une première fois dans la région de Zander et probablement une prochaine fois dans la région qui sera retenue pour les festivités. Donc ça, c'est déjà un truc que je voulais féliciter les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale du Niger qu'elles ont déjà fait. Mais d'autre part, vous savez, cette question a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Pourquoi je dis ça? Parce que pour déjà qu'il y ait solution, il va falloir déjà cerner le problème. Et c'est tout, c'est là est la question. Nos femmes ont vraiment besoin d'être sensibilisées par rapport à ce que c'est d'abord le changement climatique, puis par rapport à ce qu'est désormais leur vie, par rapport à leur situation sécuritaire, etc., etc. Et partant de là, nous pourrions préconiser, et je précise, à chaque région ou chaque milieu sa spécificité. C'est là la complexité des choses. C'est-à-dire, telle région, ils ont besoin de ça, mais dans l'autre région, ce n'est pas de ça, ils ont besoin. Et l'autre aspect, c'est que je reviens par rapport au débat de tout de suite là, parce que c'est ce truc. C'est-à-dire, vous savez, la femme, Elle avait un peu évoqué, puis elle est partie d'un truc. Elle a ça inné, c'est ce que j'ai aimé dans votre intervention. Elle a tout en elle, vous savez. Mais si dehors, il n'y a pas quelqu'un qui l'aide à les développer, ce n'est pas possible. Alors, je reviens ici, nous, on doit nous entretenir avec elle en étant la faible et non la source de solution. Ce ne serait pas évident. Alors, une manière de dire qu'il va falloir peut-être traiter les éduquer autrement pour pouvoir faire d'elles des armes, effectivement, pour lutter contre ces fléaux-là.
D'accord. Madame Aliton.
Oui.
En tant que présidente de l'association de femmes de lutte contre la guerre, quelles sont les solutions que vous pensez pourront améliorer la capacité d'adaptation des femmes partout au Niger et en particulier dans les zones en conflit?
Moi, je pense que, comme l'a dit l'autre, c'est vraiment la sensibilisation. Parce qu'il faut mettre l'accent sur la résilience des femmes. Sinon, déjà, la sensibilisation, c'est à deux niveaux. Parce que vous savez, la région d'Agadez, c'est une région où il y a beaucoup de courries. Et avec les changements de climatique, il y a beaucoup de courries qui n'ont pas coulé pendant longtemps. Et ces courries-là, les gens trottent pour venir construire sur les lits des courries. Là aussi, ça demande une sensibilisation.
D'accord. Nous sommes arrivés au terme de ce forum. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame Aliton, pour votre patience et votre intervention.
Merci aussi, merci.
Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et aux médias partenaires. Avant de nous séparer, je rappelle que la thématique d'aujourd'hui est au Niger. Quel impact du changement climatique sur les femmes en zone de conflit? Nous étions avec Hadiza Hima Haruna, membre du vivier d'expertise féminin en matière de sécurité dans le Sahel et experte en genre et gouvernance sécuritaire, en compagnie au téléphone de Madame Azara Aliton, présidente de l'Association des femmes de lutte contre la guerre, et de Madame Nana Djoubi Haruna, communicatrice du réseau parlementaire de lutte contre les violences basées sur les genres. C'était Rafika Ter à la présentation, Issa Lawali à la technique. Rendez-vous mardi prochain pour un autre forum Espace Femme. Place maintenant à notre rubrique Loti qui sensibilise en humour. Excellente soirée et au revoir à tous.
Affairage, 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 affairage.
Bonjour ma belle, comment vas-tu?
Je vais bien, Hawa, et toi?
Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers devant toi?
Ah, je cherche les passeports des enfants.
Passeport?
Oui, tu sais, c'est les vacances et chaque année, nous les passons au village.
Au village? Ça ne va pas chez toi, on dirait. Aller au pays ne vous suffit pas, vous allez continuer jusqu'au village. Rester en ville, c'est mieux pour vous et les enfants.
Mais c'est là-bas que j'ai grandi, non? Et puis mes parents sont toujours là-bas, alors j'amène les enfants voir leurs grands-parents.
Vraiment, moi, je ne peux pas faire cela.
Mais pourquoi?
Au village, il y a plein de maladies. C'est pour cela que quand j'étais au Niger, je ne partais pas au village. À plus forte raison, amener mes enfants.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ta famille alors?
Mais il y a le téléphone. On s'appelle de temps en temps.
C'est tout?
Mais tu veux que je fasse quoi d'autre?
Et s'ils ont des cérémonies, tu fais comment?
Je les appelle et quelquefois, je leur envoie quelque chose.
Mais tu te crois supérieur à eux ou quoi? Et quand tu étais à Niamey, ils étaient toujours avec toi lors des cérémonies et en cas de besoin. Et ça, même sans tenir compte de la distance qui vous sépare. N'oublie pas que aller au village permet à toute la famille de se connaître. Les enfants tisseront des liens avec leurs cousins.
Ce que tu dis là donne matière à réfléchir quand même. Hein?
Mais ma chérie, ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est à nous de nous déplacer. Et puis les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer.
Certains m'ont dit que si mes enfants partent au village, ils contracteront des maladies. Et moi, je ne veux vraiment prendre aucun risque.
Mais et ceux qui vivent là-bas? Ils ne sont pas morts?
Mais c'est normal, ils sont habitués.
Vous pouvez vous y habituer aussi.
Hawa, ah, laisse ça de.
Habarabi, si tu crains les maladies, demande conseil au médecin pour prendre une petite pharmacie avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Et je pars avec ma provision de nourriture, juste pour appuyer mes hôtes.
Bon, vu de cette manière, je pense que c'est faisable.
Mais bien sûr, je fais pareil aussi quand je rends visite à ma belle famille au village. Je connais une qui ne va jamais rendre visite à sa belle famille au village.
Ok, là je vois que tu parles vraiment de moi, je n'aime pas ça. C'est bon, j'ai compris, je vais suivre tes conseils. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ces idées tordues. Hein.
Tu n'es probablement pas la seule, ma belle. Je suis sûre que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème.
En tout cas, il faut qu'on change de comportement.
C'est mieux, hein? Sinon, le jour où on va demander à chacun de retourner dans son village, on verra où tu déposeras ta valise.
Et à Niamey, bien sûr.
Mais Niamey n'est pas ton village natal, à ce que je sache. Donc, fais des efforts.
Bon, tu sais, tu as vraiment raison, hein? Je vais programmer ce voyage et amener les enfants au village.
En tout cas, tu as intérêt. Et surtout, si tu veux marquer des points dans ton foyer, il faut rendre visite à la belle famille. Elle vit quand même en brousse. Au bout du Niger.
Même si c'est au bout du monde, j'irai quand même.
Si c'est pour la belle famille, là.